Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, c'est Cinérama, effectivement, émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 4 avril et je veux dire bonjour à tout le monde, bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et puis bonjour à notre invitée Maïté Doliger qui est la directrice du festival de Bayargues qui va signer une nouvelle édition. On en parlera dans quelques instants, mais avant on va développer le sommaire avec des films qui sortent cette semaine et puis des films qui sont déjà sortis. Alors toi Marine, qu'as-tu vu ?
Alors, pour moi, ce sera Bellflower, My Week with Marilyn et Perfect Sense.
Et puis Manu, une petite perle qui vient des années 50.
Voilà, un film de 1949, The Black Book, le livre noir, à ne pas confondre avec le film de Verhoeven, c'est un film d'Anthony Mann.
Et puis, nous aurons deux interviews. Nous avons pu rencontrer Alain Chabat, qui était venu présenter sur la piste du Marsupilami. Avec Fred Testo, mais qu'on n'entendra pas dans l'interview parce qu'il a très peu parlé. C'était pour le coup une conférence de presse un peu étrange. J'ai réussi à en extraire 6 minutes que vous entendrez un peu plus loin dans l'émission. Et puis dans un tout autre style, nous écouterons Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval pour le film Low Life qui sort aujourd'hui et qui avait été lui présenté en avant-première pendant le festival Hybride. C'était la semaine dernière, mais tout de suite, on retrouve le festival de Bayard.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Donc, Maïté Doliger, vous êtes la directrice du festival de Bayargues. On vous avait déjà reçu au mois de novembre pour présenter l'édition 2011. Et pour le coup, on s'étonne qu'une édition 2012 arrive si vite pendant le printemps. Alors, c'est quoi ce changement ?
Oui, alors en fait, c'était un changement qui avait déjà été annoncé en novembre. Le festival de Bayargues change sa saisonnalité et vient pendant les vacances scolaires, pendant les vacances de Pâques, pour deux raisons. Déjà, une demande du public un peu plus familial qui pouvait difficilement emmener les enfants au festival. Et pour une seconde raison, nous ouvrons une saison de l'animation sur l'année et nous avons des rendez-vous en automne qui se maintiendront.
Alors l'avantage aussi, c'est que ça va être pendant les vacances scolaires, si je ne me trompe pas, et que là il y a un vide intersidéral en ce qui concerne la culture. Alors un peu moins le cinéma, c'est vrai, mais vous allez profiter aussi des vacances des enfants, donc ça tombe bien.
Voilà, première semaine des vacances de Pâques du 6 au 15 avril.
Alors on va parler des gros plans du festival, et puis on va commencer avec un film qui est plutôt dur. Alors c'est un film effectivement peut-être familial pour les enfants, mais un des films sans doute d'animation les plus durs.
Ça recommence. Alors vous abritez deux réfugiés, ça doit être dur. Pauvres petits, ils sont si jeunes.
Ce sont tes boutons qui te démangent.
Oui, j'ai trop chaud et puis j'aime pas les abris.
Moi non plus, mais n'aie pas peur, je suis avec toi.
Le tombeau des Lucioles. Alors, on pense souvent que l'animation, ça peut être quelque chose de drôle. Et là, avec Le tombeau des Lucioles, c'est quand même un film très très dur, non ?
Exactement. Alors, pour les enfants, je dirais non. Ados-adultes, amenez pas vos enfants s'ils ont moins de 12 ans, c'est pas utile.
Moins de 12 ans.
Oui, vraiment. Film à la fois difficile, mais chef-d'œuvre du cinéma d'animation. Le panorama du festival 2012, c'est la famille. Et comment ne pas programmer Le tombeau des Lucioles, qui est un des plus beaux films réalisés sur cette thématique-là. Je pense que si on avait une liste des 20 films d'animation en fait, à voir dans sa vie, il ferait certainement partie des 5 premiers. Donc,
incontournable. Effectivement, il est plutôt incontournable. Donc c'est l'histoire de deux orphelins pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et ça se passe effectivement au Japon. Hein.
Voilà, c'est tiré d'un roman autobiographique et Isao Takahata, qui est un des cofondateurs du studio Ghibli, est très très attaché a donné en fait une image réaliste du Japon, et il a un regard très très intéressant sur cette période-là difficile.
Alors il y a mes voisins les Yamada, ça aussi c'est un grand classique.
Oui, hein, là aussi c'est un grand classique, là aussi c'est la famille, là aussi c'est encore Isao Takahata, mais ça permet aussi de voir un petit peu la diversité de cet auteur. Alors à contrario, au contraire de Miyazaki, Takahata ne dessine pas. Il réalise, il écrit. Et là, on est plus dans le domaine des scénettes très drôles, très humoristiques, très satiriques, en fait, sur la société, et qui se rapprochent un petit peu des haïkus japonais. Donc, c'est vraiment très, très court.
Avec un dessin qui est radicalement différent.
Radicalement différent. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que toutes ces productions sont différentes.
Et plutôt griffonnées, en ce qui concerne mes voisins, les Yamada. Dans ce panorama, on retrouve aussi Tokyo Godfathers. Donc là aussi, grand chef-d'œuvre.
Oui, alors encore un japonais, beaucoup moins connu du grand public, Tokyo Godfather, sur la thématique de la famille. Là aussi, pas forcément les thématiques que l'on a l'habitude d'entendre. C'est une drôle de famille, puisqu'il s'agit de trois sans-abris qui découvrent en fait un bébé et qui décident de le ramener à la maman. Satoshi Kon, c'était un des plus importants cinéastes de la nouvelle génération qui malheureusement est décédé trop tôt, puisqu'il est mort il y a deux ans maintenant. À ne pas manquer, à ne vraiment pas manquer. En plus, on ne l'a pas vu sur grand écran.
On se creuse la tête pour trouver une solution. Tu parles, Charles, on pille le cimetière en volant les offrandes faites aux défunts. Pourquoi ? Parce qu'on est sans abri. Bravo, Pierre.
Arrête, ça suffit, tu m'énerves.
Non, j'ai pas l'intention d'arrêter pour te faire plaisir, ma belle. On est trois bons à rien, trois clodos incapables de se prendre en charge. Voilà la vérité, Anna.
Bon, tu vas la fermer, oui ou non ? J'essaie de réfléchir.
Non, je vais pas la fermer. Il y a pas de lait dans la poitrine d'un travesti. Même si tu appuies toutes tes forces sur tes seins, rien ne sortira, inutile. Allons, Anna, sois raisonnable. Tu sais bien qu'on est incapable de prendre soin de cette petite fille.
Parle pour toi, l'imbécile.
Avec un travesti, avec des traits exagérés, oui. C'est un peu hystérique sur les bords.
Oui, un petit peu à l'image un petit peu décalée d'une travestie souvent fausse. On va se retrouver dans le burlesque proche un peu de Chaplin, avec à la fois des moments très comiques, très très poussés, et à la fois des moments presque pathétiques, enfin difficiles.
Alors, on a parlé des chefs-d'œuvre. Mmh. On va parler maintenant, plutôt des films qui concernent les enfants les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut noter sur vos choix ?
Alors, beaucoup de, comme d'habitude, une programmation. Pas forcément comme d'habitude, puisque pour la nouvelle saison, on a vraiment axé sur une programmation très grand public, très familiale. Donc, il y a beaucoup de courts-métrages, beaucoup de programmes de courts-métrages pour enfants, venus en fait du monde entier. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils sont à la fois visibles. Il y a trois séries en fait de films pour enfants, des films pour très jeunes enfants, adaptés en fait à un enfant à partir de 2-3 ans, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui durent entre 35 et 45 minutes grand maximum, des courts-métrages différents avec des techniques différentes. Donc là, c'est aussi une volonté du festival de donner à voir des productions variées, pas forcément celles que l'on va retrouver, enfin même pas du tout celles que l'on va retrouver le matin lorsqu'on se lève et qu'on a envie d'allumer l'écran pour mettre son enfant devant la télé.
Voilà, c'est ça. Hein, la particularité quand même d'un festival en général, c'est de faire découvrir, d'avoir une ouverture sur un genre. Là, il se trouve que c'est le film d'animation. Et effectivement, c'est, même dans les programmes courts, c'est radicalement différent de ce qu'on peut retrouver à la télévision, que ce soit sur les chaînes thématiques ou même au cinéma avec les films de Disney.
Hein. Oui, par exemple, on a un programme qui s'appelle « Des rois qui voulaient plus qu'une couronne ». Là, on va retrouver une animation qui est proche presque de l'animation abstraite sur un des courts-métrages, ce qu'on ne voit jamais à la télévision. Et en fait, un enfant, même si c'est de l'aquarelle, même si ce n'est pas hyper figuratif, à partir du moment où le scénario est bien construit, va totalement accrocher. On n'a pas besoin d'une image hyper simplifiée, très colorée pour attirer un enfant. Si on lui raconte une histoire, pourvu que l'histoire soit belle, ça suffit amplement.
Donc là, c'est une vraie confiance, finalement, que vous faites aux spectateurs, aux jeunes spectateurs.
Oui.
C'est ça, le pari.
Voilà. Mais généralement, depuis 27 ans, le festival ne se trompe pas et les jeunes spectateurs et les parents sont ravis au sortir de ces séances.
Alors, Si on parle justement de ces films, puisque vous êtes un festival international, donc effectivement les films viennent de toute l'Europe et du monde entier, est-ce qu'il y a une patte particulière d'un pays qu'on peut retrouver dans votre programmation ? Alors, la question est peut-être un peu...
Non, oui, on va en citer deux. La boutique des Pandas, ça arrive des studios de Shanghai. C'est vrai que quand on connaît un tout petit peu l'animation, sans qu'on nous dise la provenance des films, on va reconnaître. C'est un live animé, une technique, une atmosphère très particulière. Évidemment, la musique très marquée asiatique, forcément. Et il y a Drôle de Grenier. Là, on est vraiment dans l'atmosphère des pays de l'Est. Donc là aussi, vraiment une patte typiquement
Europe centrale.
Europe centrale, oui.
Alors là, je vois aussi qu'il y a le Triomphe de Babar. Donc vous avez aussi des gros classiques d'une génération qui n'est pas la génération actuelle.
Eh bien oui, parce que ça fait partie aussi des films, enfin des classiques à voir en cinéma, et puis des bonnes adaptations en fait littéraires. Donc on a reprogrammé le Triomphe de Babar pour les tout petits, parce qu'il y a très très peu de longs métrages visibles à partir de 3-4 ans en fait. Voilà. Et on a programmé cette année, et ça on y tient, des films de télévision de qualité. Qui sont deux adaptations, ce qu'on appelle des spéciaux en télé, c'est-à-dire des 26 minutes. Cheval Soleil et Catfish Blues, qui sont en fait des adaptations de romans pour jeunesse, qui ont été aussi multiprimés dans les festivals et qui donnent à voir une animation différente sur le plan artistique.
Donc il y aura des films pour la jeunesse, donc des programmes adaptés. Il y a aussi une petite programmation qui concerne des courts-métrages d'animation comme Logorama notamment, qui est un des rares films d'animation français primés aux Oscars, je crois que c'était il y a 2 ans. Voilà, donc vous allez aussi piocher parmi les grands succès.
Alors parmi les grands succès,
succès esthétique hein, d'ailleurs.
Voilà, oui, exactement. Parmi les grands succès et puis parmi les, il y a effectivement à Bayargues, le festival en fait se compose en deux parties, une partie festival du jeune public, donc vraiment orienté jeune public, et une partie du festival orienté animation visible par les ados, plutôt voire même les adultes et un public cinéphile, parce qu'encore une fois l'animation n'est pas uniquement
réservée aux enfants,
pour les enfants, voire même pas du tout. Et là on donne à voir une sélection de films d'animation, alors qui vont de l'animation récente, voire même de l'animation qui n'est jamais passée dans les festivals en France, parce qu'on a encore une avant-première cette année qui sera Annecy bientôt. La nouvelle vague de l'animation dont fait partie le collectif H5 pour Logorama. Pixel aussi, là on retrouve vraiment le mélange, enfin une interaction entre le jeu vidéo, l'image animée et puis le cinéma réel. Et à la fois des grands classiques du cinéma d'animation, puisqu'on reprogramme Crack et puis Father and Daughter de Michael Bogdevitt, qui sont en fait des chefs-d'œuvre du cinéma dans le genre. Voilà.
Donc voilà, des pépites, beaucoup d'inventions finalement, oui, dans cette programmation. Oui. Essentiellement axée sur le jeune public, en tout cas en ce qui concerne la nouvelle édition de ce festival de Bayargues du 6 au 15 avril, qui reviendra dans une petite forme donc à l'automne, hein, c'est bien ça.
Exactement.
Voilà. Mais pour les
pour les automnales, grands. Voilà, exactement, voilà. Pour les automnales de l'animation, avec beaucoup de rencontres de réalisateurs et une thématique pour la fête de l'animation autour de la Croatie.
Alors évidemment, vous n'avez eu qu'un aperçu de ce qu'on peut trouver dans ce festival, très bien fourni. Donc le mieux, c'est d'aller sur Internet peut-être, www.
Oui, le mieux, c'est tout simplement de se connecter sur le site du festival, www.festivalbayargues.fr. Et là, on a accès au catalogue numérique, à toutes les infos.
Et pratique. À tous les horaires, ça se passe à Bayargues essentiellement, mais il y a aussi une petite délocalisation à Montpellier et ailleurs.
Cinérama.
Moi, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et on passe à Bellflower, écrit à 23 ans par Evan Glodel, un geek californien fan de Mad Max. Bellflower mettra 8 ans avant de pouvoir trouver les financements nécessaires. Résultat, cette histoire d'ados attardés qui construisent un lance-flammes par leurs propres moyens se tournera finalement avec des trentenaires californiens, tous issus de l'entourage du réalisateur, qui joue lui-même le premier rôle.
Who are you? Where are you from? What do you do?
Oh.
That is probably the weirdest thing I've ever heard.
This is nice.
You don't want me to be your girlfriend.
Why not?
Because I'll hurt you.
Oh, how do you know I won't end up hurting you?
I doubt it.
I'm pretty tough, you know.
Why are you doing this?
L'aspect bricolage du film donne du cachet supplémentaire à son côté indépendant, tourné avec un budget de $17,000 seulement à une caméra fabriquée par le réalisateur lui-même. Bellflower propose un bel équilibre entre le calibrage au millimètre près de ses plans et son image volontairement salie, donc forcément branchée. Bellflower mise tout sur une mise en scène de la mise au point, floutant l'image pour n'en montrer que ce qui compte. Alors si vous êtes des adeptes des applications Instagram ou Hipstamatic sur smartphone, vous aurez d'ores et déjà une idée de l'esthétique adoptée par le film. Couleurs saturées, plans trop éclairés, pellicules rayées et écrans de caméra dégueulasses. Bellflower joue sur l'esthétique de la génération hipsters et n'hésite pas à y aller au lance-flammes lorsqu'il s'agit de décrire ces adultes qui n'en sont pas, avec une crudité parfois sincère, mais souvent poseuse. Reste le scénario, à la base une histoire d'amour prise à ses deux extrémités, son tout début et sa fin, qui s'avérera bien plus apocalyptique que la fin du monde qu'elle croit les personnages, eux qui détruisent leur futur en pensant le déjouer. Gangréné par les références alors qu'il voudrait lui-même devenir celle du nouveau cinéma arty américain, Bellflower a tout de la tendance artistique d'aujourd'hui. Recycler le vieux à défaut de savoir quoi créer, se parer d'une fausse insolence trash pour faire croire à une liberté de ton, se contenter de jouer avec les codes du cinéma au lieu d'innover. On reste sceptique quant à cette volonté de dresser le portrait d'une jeunesse dans l'air du temps mais un peu loseuse, dévorée par les histoires d'amour régressives et carburant à la bière. Le propos est trop incertain ou immature pour véhiculer un quelconque message ou devenir un miroir générationnel. Une fois passé l'effet visuel déconcertant et plutôt hypnotique, Bellflower laisse un goût d'inachevé, partageant les opinions. Futur film culte pour certains, brouillon frivole sans aucun fond pour d'autres. Donc si ça vous tente quand même, parce que c'est pas inintéressant comme film, ça passe encore pour une semaine ou deux au Diagonale et ça passera ensuite à l'Utopia.
Merci Marine, on passe un tout autre style.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Après Paria, La blessure et la question humaine sort ce mercredi Low Life de Nicolas Klotz. Alors à la différence des précédents films où la réalisation était signée par l'homme du couple, il faut cette fois-ci ajouter sa femme Elisabeth Perceval qui auparavant signait le scénario ou les dialogues et ce qu'elle fait ici aussi. Alors Nicolas Klotz a commencé dans le documentaire avant de s'emparer de la fiction en signant notamment La Nuit Sacrée adaptée de Tar Benjelloun et puis La Nuit Bengali adaptée du roman de Mircea Eliade où figure au casting le jeune Hugh Grant qui débute alors sa carrière. Nous sommes en 88. Mais il est bien fini le temps où on prend un roman et on l'adapte. Le couple Klotz-Perceval inscrit une dimension d'auteur dans leur film avec une dimension aussi esthétique et politique. Paria en 2001 nous confronte au monde des sans-abri. La blessure en 2005 nous fait suivre l'itinéraire d'une sans-papier dans Paris entre le commissariat et les squats. Et la question humaine regardait notre organisation capitaliste en la confrontant aux heures les plus sordides de la Seconde Guerre mondiale. On pouvait entendre des instructions techniques sur les convois qui se rendaient dans les camps d'extermination.
2. Le chargement normal des camions est de 9 à 10 pièces par mètre carré. Mais les grands camions sans horreur ne peuvent être utilisés à une telle capacité. Ce n'est pas une question de surcharge, mais parce que le chargement maximal aurait des répercussions sur la tenue de route du véhicule. Il paraît donc nécessaire de réduire la surface de chargement d'un mètre. Réduire le nombre de pièces comme on le faisait jusqu'ici ne serait pas une solution. car l'espace vide doit également être rempli d'oxyde de carbone.
Un rôle hein, pour Mathieu Amalric qu'on entend ici, avec sa voix donc, qui rapporte eh bien, un document d'un ingénieur qui travaillait bien autour des camps de concentration. Alors une histoire, un passif hérité de nos parents et grands-parents. Et dans Low Life, le couple Klotz-Perceval entend abandonner l'héritage des parents pour se concentrer sur la jeunesse. Mais pas la jeunesse actuelle entourée de portables accros aux SMS, les yeux rivés sur Internet prêts à écrire un LOL à la moindre vanne, ni celle qu'on dit abrutie par l'alcool ou les stupéfiants, mais une sorte de jeunesse intemporelle qui n'existe pas vraiment. Alors rien d'étonnant puisque dans Low Life, si certains éléments de la fiction semblent crédibles, d'autres sont absolument fantastiques. On suit une communauté de jeunes gens qui s'organisent pour contrer la police venue évacuer un squat où vivent des sans-papiers, pour la plupart africains. Carmen, qui était sentimentalement liée à Charles, y fait la rencontre de Hussein, jeune poète afghan, fou amoureux. Les amants ne se quittent plus et sont forcés de s'enfermer pour échapper à la police puisque Hussein se voit refuser son asile politique. Alors peu à peu, la peur de la police conduit à fausser la relation amoureuse et Hussein a le sentiment que Carmen le surveille. Porté par une bande-son captivante à base de musique post-punk électro, Low Life est un objet cinématographique plutôt curieux. On peut autant se laisser bercer par les dialogues qui, avant d'être joués, sont dits pour être bien entendus, comme en être agacé. Un des personnages, notamment Charles, est celui qui charge son discours de politique et de poésie et emploie une diction tellement monotone que ça en devient un peu crispant. Alors la parenté de l'interprétation est à rapprocher de ce que faisait Robert Bresson, qui refusait l'expressivité à ses comédiens et préférait jouer sur la diction, une méthode qu'on peut aussi voir à l'œuvre dans les films d'Eugene Green. Mais les réalisateurs revendiquent aussi la figure du zombie, des zombies qui, il est vrai, ne se marrent à aucun moment. C'est donc plutôt une communauté tristoune, un anti-auberge espagnol, si l'on veut. Des zombies qui se cherchent, qui se croisent, qui se questionnent et qui questionnent notre époque et quoi y faire. Alors même si l'ambiance est pesante, dans la durée du film émergent ici et là quelques belles séquences qu'on pouvait voir dans les précédents films de Nicolas Klotz. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça moins brillant que la blessure et la question humaine. Là, on a l'impression de voir effectivement eh bien, une espèce de jeunesse désincarnée qui lutte contre un confort petit bourgeois dont ils sont issus, mais j'ai l'impression que le discours est un peu faussé. Mais par ailleurs, on va laisser le soin au réalisateur de se défendre un peu sur ce film. Donc Low Life, Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval, avec un petit extrait justement d'un film bien qui est le point de départ de Low Life, qui est Le Diable probablement de Robert Bresson. On en écoutera un extrait.
On replongeait dans ce monde sensible, heureux, où tous les hommes dorment dans l'égalité du même sommeil. Et cet endroit du monde, nous l'appelions Low Life.
J'aime bien la sonorité du titre, Low Life. Je pourrais donner 3-4 raisons différentes qui n'ont peut-être pas de lien, mais qui ont inspiré des tas de choses du film. La première, c'est que c'est un morceau de musique d'un groupe qui s'appelle Public Image Limited, donc qui était le groupe que Johnny Rotten des Sex Pistols a fondé tout de suite après, quand il a quitté les Sex Pistols. Donc c'était la fin du punk. C'est une chanson de ce groupe qu'il a écrit en 1977, enregistré en 1977, et qui est la même année que Le Diable probablement de Robert Bresson, qui est un film avec lequel Low Life dialogue.
Mendier dans la rue comme je l'ai vu faire à vos semblables, n'est-ce pas un peu dégradant ?
Le monde dégrade autant celui qui donne que celui qui reçoit.
C'est aussi parce que je crois que c'est un film de zombies, Low Life. Et que Low Life, ces questions de zombies comme figure très révolutionnaire, comme figure dans le lieu comme ça de l'être humain qui peut se recharger de tas de choses comment la vie peut recirculer dans des corps qui ont été empoisonnés. Et Low Life, c'est ça, c'est les basses fréquences, les vibrations, les intensités basses qui permettent dans des périodes comme la nôtre, où tout est axé sur le spectaculaire, sur l'immédiateté, la performance, la compétition, qui permet de puiser dans des forces plus profondes parce que la question politique, elle est profonde, elle n'est pas superficielle, et qu'aujourd'hui, c'est très difficile de penser et de chercher des formes qui travaillent ces questions politiques sans s'éloigner, je crois, assez radicalement de la vitesse, de l'immédiateté et de l'amnésie.
Justement, l'immédiateté, c'est peut-être pour ça qu'il y a un traitement très particulier au niveau des dialogues, c'est-à-dire qu'on sent une écriture comme si les phrases devaient peser.
L'écriture, c'est tout dans un film. C'est pas seulement ce qui est porté à l'écran par la parole, mais ce qui est porté à l'écran par les corps, ce qui est porté à l'écran par le mouvement, par tout ça, et que quand on a envie de porter à l'écran des sentiments compliqués, des espoirs, hein, je pense qu'il ne faut pas renoncer aux mots dans une époque où on renonce un peu à tout. Et donc ce sont des jeunes gens, j'avais envie que les sentiments soient portés par une langue, par une parole, on s'adresse aux uns et aux autres avec les mots. Et les mots, c'est aussi une forme de résistance. Dans un monde où tout nous pousse un peu à ne plus penser, à réagir et à s'exprimer par des slogans, des phrases un peu toutes faites, qu'on laisse le temps au sentiment de trouver les mots, de chercher, de faire le parcours, en tout cas, avec la langue, et que ce soit très écrit, tout en prenant chair dans ces jeunes gens. Parce que ces jeunes gens, finalement, c'est devenu leur langue. Et c'est important qu'ils s'adressent les uns aux autres avec une langue qui est aussi une forme de résistance.
Il y a une évacuation à la Guillotière. Il faut empêcher la police d'entrer.
Putain, reviens, t'as oublié tes chiens.
C'est la première fois que je me retrouve devant autant de flics.
Des flics qui débarquent, des contrôles, on en a déjà eu quelques-uns.
Et toi, t'habites ici?
Oui, je suis afghan.
En ce moment, je rencontre des gens incroyables. Dans des squats, des garages, des hôtels pourris. Là où ils vivent, j'ai l'impression d'y voir des images de guerre.
On avait très envie de faire un film loin des pères. Par rapport à La question humaine, qui était un film sur les pères et sur les fils qui héritaient de l'histoire des pères, nous avions envie là d'être effectivement avec un groupe de jeunes qui étaient aux prises avec une histoire tellement loin de celle des parents dans sa représentation sociale que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais les liens sont des liens plus dans l'intimité, plus parce que socialement, des formes de représentation politique ont complètement changé. Ils n'ont plus les mêmes références. Donc c'était ça aussi, c'est-à-dire d'abord des histoires courtes, et puis aussi que cette jeunesse-là s'invente, crée, est au début d'une histoire. Voilà. Disons que la famille est à la fin d'une histoire. Nous assistons à un moment un peu crépusculaire de notre société, qui est plutôt la fin de quelque chose et peut-être les premières prémices d'autres choses. Et ils sont ce frémissement-là.
Ils ont rejeté ta demande d'asile.
C'est quoi ce grévé? Moi, j'aime pas ces trucs-là.
C'est comment ils appellent ça? Leur arrêt de mort.
Ici! La question politique dans le film passe par cette forme qu'on a donnée au film qui est le vaudou. Les papiers administratifs comme ça, que les obligations à quitter le territoire français que reçoivent les Africains, ils les appellent leur arrêt de mort. C'est-à-dire que c'est un papier, quand tu reçois cette lettre, tu sais que l'État français t'a déclaré la guerre. Et cette guerre, elle passe par le fait de petit à petit couper absolument tous les rapports que tu peux avoir avec ton entourage. Et donc, étant donné que ce sont des lettres administratives qui circulent, peu à peu, ça, c'est comme des sorts qui sont lancés à ces Africains, des condamnations, des sorts que eux tentent de conjurer. Et le vaudou, les pratiques qu'ils font, c'est pour conjurer le mauvais sort qui leur est lancé, et donc ça le retourne contre celui qui l'a envoyé. Donc en fait, c'est une manière comme ça de suggérer que ces papiers qui apportent la mort font partie d'un processus qui est aussi destructeur pour celui qui l'envoie que pour celui qui l'a dans sa poche.
Il est mort de trouille. Chaque fois qu'il part, j'ai peur de plus le revoir.
Faut pas exagérer, les flics débarquent pas comme ça.
Je connais bien Carmen, fais attention. Quand elle s'enflamme, rien ne peut l'éteindre, elle peut se faire très mal.
Le film était une sorte d'hommage à la jeunesse, mais comme force d'antiquité. Parce que la jeunesse, c'est une chose très ancienne, c'est pas du tout une chose qui tombe du ciel comme ça, qui est neuve. La jeunesse, c'est très ancien, donc la jeunesse est portée par des générations qui les ont précédées et portée souvent par un élan amoureux, une croyance au monde, et que les adultes perdent rapidement parce que pris dans trop de contradictions et dans finalement un conformisme qui éteint.
T'écris un poème ?
Tu es très jolie.
Hier soir, tu m'as dit je t'aime. Non, j'ai pas rêvé. Tu vas me quitter.
Quelle guerre sommes-nous en train de préparer ? Quelle forme de guerre sommes-nous en train de préparer ? Ça passe par le contrôle, c'est évident. Le film travaille beaucoup là-dessus, sur cette question de pouvoir contrôler les sentiments, mais également contrôler les êtres humains, leur sourire, leur rapport, leur engagement. Et on n'imagine pas les guerres qui nous attendent. C'est pas du catastrophisme, c'est une simple lucidité comme ça de me dire ça n'existe pas de débarrasser l'humanité de toute cette puissance destructrice comme ça du jour au lendemain sans que l'humanité fasse un travail fort vers le progrès. Et un travail fort vers le progrès, c'est évident que c'est toutes les valeurs qui sont aujourd'hui cassées par le capitalisme contemporain. L'éducation, la culture, l'intelligence au service du bien commun, c'est des valeurs de bonté que le cynisme ambiant est en train de complètement écraser. Et ça fait même bizarre de parler de bonté.
On pourrait se cacher tous les deux.
Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dingues.
On replongeait dans ce monde sensible, heureux, où tous les hommes dorment dans l'égalité du même sommeil. Et cet endroit du monde, nous l'appelions « low life ».
Questionnement sur la jeunesse, histoire de zombies, incantation vaudou, c'est Low Life, donc réalisé par Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. Et pour ce son, je tiens à remercier Clémentine de Radio Clapas, puisque mon appareil est tombé en panne lors de cette interview. Et je me suis dit,
c'est
voilà.
La malédiction.
C'est l'incantation vaudou. Enfin, c'est, voilà. Et Nicolas Klotz, réalisateur, a cassé une poignée d'ailleurs du diagonal. Si, je l'annonce ici. On passe à la suite cette fois-ci, la petite perle des années 50.
Cinérama. Sur Divergence FM.
Le livre noir, donc une rareté d'Anthony Mann. Les cinéphiles ont tendance à oublier que le début de carrière d'Anthony Mann était placé sous le signe de la série B. Il est d'abord reconnu, bien sûr, comme étant un des maîtres du western moderne, de par l'approche picturale du traitement visuel et la complexité des personnages et des enjeux. L'Homme de l'Ouest, Je suis un aventurier ou Winchester 73 sont de véritables chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du 7e art. Mais avant de devenir un auteur à part entière au sein même de l'industrie hollywoodienne, Mann fut un spécialiste émérite du petit polar fauché, sec et vigoureux, tourné dans des conditions difficiles et dans des décors naturels. Filmé donc en extérieur, des œuvres telles que La Brigade des Suicides ou Marché de Brut tranchent avec la production courante en mêlant approche documentaire et lyrisme sombre. Ce côté âpre et rigoureux est sublimé par les compositions visuelles de John Alton, l'un des plus grands chefs-op de tous les temps. Tourné à la même époque, Le Livre Noir est en revanche un film totalement atypique, à la lisière de nombreux genres. Il s'agit en apparence d'un drame historique situé au lendemain de la Révolution française en 1794, période trouble et chaotique, baignant dans un climat de terreur. Robespierre n'a qu'un but, éliminer tous ses rivaux afin de conserver les grâces de la Convention. Dans un petit livre noir, il a dressé une liste de ses ennemis conspirateurs, victimes de la cruauté révolutionnaire. Ce petit livre doit être détruit. Charles d'Aubigny, une sorte de flic, d'enquêteur, est chargé de retrouver le livre dans le but de destituer Robespierre. Si l'on s'en tient à l'aspect purement historique, Le Livre Noir est une catastrophe. Truffé d'invraisemblances, de contre-vérités, de dates erronées et d'anachronismes. Déjà, un carton situe le film en 1791 alors que nous sommes bien en 1794. Ensuite, le portrait quand même outré de Robespierre est certainement loin de la réalité. Il apparaît comme une sorte de méchant ultime, un type effrayant et diabolique, une sorte d'incarnation du mal. En face de lui, Danton n'est rien d'autre qu'un saint. Ce manichéisme très hollywoodien peut déranger les historiens, ils n'ont pas tort, sauf que cinéma n'est pas forcément la reproduction du réel. Anthony Mann ne s'intéresse pas à l'exactitude des faits. Il n'est d'ailleurs pas le seul grand réalisateur à prendre des distances avec la vérité historique. Des films bondissants des années 50 tels que Les Chevaliers de la Table Ronde ou Les Trois Mousquetaires sont parfois des modèles de révisionnisme. Plus récemment, Amadeus de Forman dressait un double portrait de Mozart et Salieri en partie erroné. Et encore, dans le génial La chair et le sang, Verhoeven ne respectait pas le souci du détail au point de faire intervenir une échelle de pompier, tout ce qu'il y a plus de moderne dans une séquence. Mann raconte d'abord une histoire haletante, comme dans ses meilleurs polars. La vraisemblance est sacrifiée au profit d'une efficacité narrative qui s'interdit tout en bord. Ce qui impressionne dans Le Livre noir est l'incroyable densité du récit, la tension permanente qui émane d'un film qui ne s'interdit aucune fantaisie ni humour, notamment le final avec l'apparition de dos de Napoléon. Le film est construit comme un film noir à suspense en empruntant de nombreux codes au récit d'espionnage. On retrouve donc les thèmes de la manipulation, de la trahison, du double. Et le fameux livre noir n'est au final qu'un prétexte à une histoire où les personnages ne cessent de mentir, duper, tromper autrui. Ce livre, en fait, c'est un peu comme le McGuffinish coquin dans le sens où son contenu ne nous intéresse pas et ne sera d'ailleurs jamais dévoilé. Anthony Mann s'aventure même parfois du côté de l'univers gothique. Pour l'un des meurtres, la mise en scène glisse vers le cinéma d'épouvante en jouant habilement sur les clairs-obscurs et les éclairages alambiqués. Le grand talent de Mann est d'avoir su tirer pleinement de son budget dérisoire. La reconstitution historique, tournée entièrement en studio, souffre d'un évident manque de moyens. L'absence de plans larges, de décors imposants, de figurants, est heureusement compensée par une mise en scène inventive et économe, servie par une photo noir et blanc magnifique. C'est le talent de John Alton déborde de tous les côtés du cadre, il compose des images aux textures expressionnistes, n'ayant rien à envier au film muet de Fritz Lang. Divertissant et sombre en même temps, Le Livre noir est donc une pépite de la série B, une œuvre d'une étonnante modernité formelle, portée par une interprétation remarquable. Le film est donc édité chez un petit éditeur, donc c'est Artus Film. J'avais déjà parlé de... Ils sont montpelliérains, oui. Voilà. Et il distribue en même temps que Le Livre noir, qui est à peu près disponible à la FNAC, enfin un peu partout, un autre film méconnu, une rareté, un western qui s'appelle Fort Invincible avec Gregory Peck, qui reprend le thème des 12 salopards.
Merci Manu.
Merci.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une femme qui assurément n'a pas besoin d'être présentée. Une très grande actrice qui vient pour la première fois à Londres.
Marilyn, est-il vrai que vous ne portez rien d'autre que du parfum pour dormir ?
Chérie, comme je suis en Angleterre, disons que je ne porte rien d'autre que de la lavande de Yardley.
Je meurs d'envie de la voir.
Cette histoire est celle d'un miracle.
Mademoiselle Monroe ?
Marilyn n'est pas prête.
Excuse-moi, je suis affreuse.
Quelques jours dans mon existence où un rêve est devenu réalité.
Est-ce que tu as peur de moi, Colin ?
Non.
Tant mieux, tu es quelqu'un que j'apprécie.
Colin, tout va bien ?
Mademoiselle Monroe avait de gros colis à expédier, je suis allé l'aider.
Que fait Marilyn avec mon troisième assistant ?
Surprise !
Non ! Reviens ici, Colin !
J'ai quelque chose dans l'œil.
Je ne vois rien.
Prends garde à ne pas trop t'investir, mon garçon.
Marilyn Monroe a un faible pour toi ? Tu plaisantes.
C'est une briseuse de cœur et elle brisera le tien. À ta place, je ne me ferai pas avoir par son numéro de petite fille perdue. Je pense que Marilyn sait exactement ce qu'elle fait.
Les gens ne voient que Marilyn Monroe.
Que peut-on bien ressentir lorsqu'on est la femme la plus célèbre du monde ?
Vous pouvez renoncer à tout ça. Oubliez Marilyn Monroe. Oubliez Hollywood. Tout laisser tomber.
Le premier amour est un doux désespoir, Colin.
Est-ce que je dois être elle ?
Qui ?
Marilyn.
Alors si le mythe de Marilyn Monroe a maintes fois fait l'objet de biographies plus ou moins romancées, il n'a pourtant presque jamais été porté à l'écran. Voici que sortent coup sur coup deux films sur la célèbre blonde, My Week with Marilyn, donc de Simon Curtis, qui est à l'écran cette semaine, tandis que Blonde, adapté du roman éponyme de Joyce Carol Oates et interprété par Naomi Watts, sortira plus tard cette année. Le premier, donc, produit par Harvey Weinstein, à qui l'on doit, je vous le rappelle, la victoire de The Artist, ne relate qu'un moment précis de la vie de Marilyn, du point de vue de Colin Clark, jeune assistant de plateau qui va devenir le nouveau jouet de la star pendant une semaine. Fraîchement mariée à l'écrivain Arthur Miller, l'actrice alors à l'apogée de sa carrière, part en Angleterre tourner avec Laurence Olivier, Le Prince et la Danseuse, dans lequel elle joue comme toujours une danseuse de bar naïve et minaudeuse. En proie aux doutes et surtout aux anxiolytiques, Marilyn multiplie les retards et les absences jusqu'à ce que l'équipe demande à Colin Clark de la surveiller. Alors si le film a certes le mérite de ressusciter une femme qui était aussi une vraie actrice avant de devenir une image de poster pour décoration bon marché, il préfère jouer la carte de l'émotion en ne montrant que la partie la plus fragile de Marilyn. Une facilité un peu agaçante qui fait basculer le tout dans le pathos et réduit la comédienne à une névrosée stupide, empêchant également son interprète Michelle Williams de pouvoir proposer une palette de jeux variés. Le manque de consistance du film provient aussi du choix justement de cette actrice. Bien que l'on sente que Michelle Williams a étudié de fond en comble la gestuelle et les attitudes de Marilyn Monroe, son interprétation ne peut pas rattraper son manque de charisme et de beauté qui étaient tout de même les composantes principales de la plus célèbre actrice du monde. Difficile de croire en voyant Michelle Williams qu'elle est la Marilyn Monroe dont on disait qu'elle illumine la pellicule par sa photogénie. Malgré quelques seconds rôles qui semblaient intéressants sur le papier, dont celui de la coach Paula Strasberg, rien n'est exploité jusqu'au bout, y compris le rôle de l'assistant Colin Clark, épuisant de passivité. Le tout pêche par une platitude et un classicisme que rien ne vient égayer, ce qui achève de classer le film bien dans la catégorie de ceux qui ne laisseront quand même pas grande trace dans l'histoire du cinéma. Et si vous voulez quand même le voir, ça sort aujourd'hui même.
Et à peu près dans tous les cinémas.
Dans tous les cinémas, mais surtout ne le voyez pas en VF parce que la voix de Marilyn a l'air insupportable en version française.
Gardez l'interprétation tout de même de Michelle Williams.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
On va faire très vite. On va écouter la courte interview de tout ce qu'on a pu garder de cette conférence de presse qui a quand même duré 25 minutes ou 30 minutes. Tu y étais, Marine. Avec Alain Chabat et Fred Testo pour parler sur les traces du marsupilami qui sort aujourd'hui. Il y a eu suffisamment de pubs sans qu'on en parle. Voilà. On va pas en parler plus.
Moi, je m'en rappelle absolument plus, en fait.
C'est très drôle, voilà.
C'était marrant sur le moment.
Je n'ai jamais vu ça de ma vie. En 16 ans de journalisme, jamais.
Ouais, il y a des clins d'œil à Franquin, évidemment. Moi, j'adore, donc je voulais rester fidèle à l'esprit. Ouais, Franquin n'a pas créé Spirou, ni Spip, ni Fantasio, puisque c'est JG après dans une deuxième période. Enfin, voilà. Et voilà, Franquin est arrivé à la troisième période de Spirou et Fantasio. Il en a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a donné vraiment Champignac et tous les personnages dont vous parlez, quoi. Et puis c'est vrai qu'au moment où je crois qu'il était fatigué à un moment de la série, qu'il a décidé de l'abandonner, de laisser quand même les personnages à Dupuis, et puis lui de se garder vraiment à part le marsupilami, qui était un personnage qu'il a créé et auquel il tenait beaucoup, quoi. Donc au moment de faire l'adaptation, c'est vrai que... voilà.
Je vous parle de la découverte d'une nouvelle espèce.
Bah, c'est un vrai marsupilami, en fait. Donc j'ai rien décidé du tout. Moi, j'ai eu la chance, après vraiment de longues années de recherche, de trouver le petit animal dans la forêt. Et puis qu'il soit OK avec le fait de tourner un film, puisqu'il n'avait jamais tourné de film. Il s'était déjà jamais montré à des humains. Donc c'est ça qui était... J'avais pas du tout envie de travailler avec des effets spéciaux. Non.
Qu'est-ce que vous comptez faire exactement avec ce marsupilami ?
Le capturer pour qu'il me ramène des orchidées pour mon sérum.
Enchanté, mademoiselle.
Je veux rentrer chez moi, je suis une célébrité, sortez-moi de là !
D'habitude, ça me... Franchement, c'est pas un truc qui me plaît beaucoup. À part sur Didier, parce que c'était simple, j'étais un chien, donc franchement, je me mettais en... Je débranchais mon cerveau, et je me disais, quand est-ce qu'il va me donner à manger, et qu'est-ce qu'il dit ? Donc j'avais pas grand-chose à penser, et est-ce qu'il va me sortir ? C'est tout ce que... C'est plus difficile pour Jean-Pierre de jouer face à un mur qui renvoie rien, que pour moi, qui était juste en mode... aucun cerveau, quoi. Donc ça, c'était très cool. Mais sur Astérix, alors que le rôle de César est pas très gros, je me souviens que... J'étais pas content chaque fois que j'enfilais la cuirasse et les trucs parce que c'était le bordel pour diriger et jouer en même temps. Sur le Marsu, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à faire les deux. C'est la première fois que ça m'arrive.
Allez-y, va. Vous débrouillerez très bien sans vous.
Jamel, on a beaucoup bossé le scénar ensemble. Il y a des trucs qui sont totalement à lui Moi, je ne peux jamais trouver... C'est un animal qu'on croyait qui n'existait pas, mais qui n'existe.
D'un animal qu'on pensait qui n'existe pas, mais qui n'existe.
Pour moi, le N apostrophe, c'est Jamel. Celui-là, jamais de la vie, je le trouve. C'est que lui qui peut, dans son cerveau malade, trouver ces trucs-là.
Un mammifère en vépar, sans les noirs. Milieu par mécole avec une tête de gerbinette, une longue queue du mètre de long. Ça, c'est un scoop. C'est tout ce que vous trouvez à dire.
L'envie de départ, c'était de refaire un film et ensemble à l'image. Puisque dans Astérix, on a quasiment pas de scène ensemble. Donc c'est l'envie de faire un duo, un tandem en tout cas de comédie. Quoi, avec, j'étais parti sur plein de trucs pour revenir à un moment finalement à un truc assez classique de buddy movie avec deux personnages très différents. Et puis lui aussi il me disait c'est Ranma quand t'es dans ce genre de personnage. Quand c'est juste la loose, il me dit c'est marrant, va là-dedans. Et moi, plus t'es comme ça, plus je peux faire ça, et plus je peux faire ça, plus tu peux faire ça. Donc c'était aussi de se filer des situations dans lesquelles on pouvait s'arnaquer l'un l'autre, s'embrouiller.
Je suis pas un menteur.
Si, tu mens tout le temps.
Sale menteur. Menteur. J'ai de la chance que j'ai pas de force.
J'ai discuté avec Jean-François Meyersoun, qui est l'ayant droit, et qui était un ami de Franquin, et qui possède donc les droits du personnage. Et puis quand je me suis intéressé au personnage, on a beaucoup parlé de... Je lui ai dit, je savais pas du tout quel genre d'histoire j'allais faire, mais enfin, on a parlé du personnage, on a parlé de Franquin. Voilà. On a parlé de ça, quoi. Et de ce que j'aimerais virtuellement, comme ça, faire sans vraiment... Je n'ai pas parlé ni d'histoire, ni de quoi que ce soit. Et en fait, très vite, il a... Bon, en tout cas, on parlait de la même chose. Il a vu que je connaissais, que j'aimais. Et à partir de là, il m'a fait... effectivement confiance. Je le tenais au courant de tout régulièrement et de temps en temps il me disait n'oublie pas que le petit animal est plutôt comme ça aussi. Enfin, tu vois, je sais pas si tu peux mettre ça dans le film, mais il y a ça, il est pas que ça, il est ça aussi. Enfin bon, de temps en temps dans les versions de scénar que j'avais envie, quoi, c'était même pas contractuel ou quoi que ce soit, j'avais envie de savoir s'il continuait à reconnaître son petit animal, quoi.
Je me dirige sur une pirogue de fortune vers le redouté territoire des Payas. Mon guide, Pablito Camarón. Chétif, mal nourri, probablement illettré.
Je vous entends cette distance.
De Palombi, Dan Geraldo pour V8 dans l'enfer des Payas.
Marchez toujours derrière moi.
C'est un peu bourlingué, hein, n'inquiétez pas. Je connais quand même assez bien la jungle.
Non mais je sais qu'il y aura sûrement et forcément des gens qui seront pas d'accord avec cette proposition. J'imagine, enfin je vois pas comment une proposition d'une adaptation satisfait 100% des lecteurs ou des fans d'une œuvre, c'est impossible. Donc évidemment que c'est une proposition et que après je suis ravi d'en discuter justement, mais ce sont mes choix effectivement que j'assume. J'ai l'impression de respecter le fond. Après il y a forcément des adaptations de forme et des tas de choses. Mais j'ai l'impression que pour l'essentiel, je suis fidèle à l'œuvre et au personnage de Franquin. Mais évidemment que j'ai pris une tonne de liberté ailleurs.
Flignon, t'as mis la clé dans ça. Donne moi cette niche ou moi je te donne 5 swags. 5 swags. Je te donnerai 5 smoothies.
T'es en train de négocier avec une loutre, là on est d'accord.
Franchement, d'entendre des rires dans les salles, c'est vraiment notre salaire. C'est vraiment le chèque. Je sais que je suis en boucle là-dessus. On fait vraiment ça pour ça. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est binaire la comédie. Si c'est pas marrant, t'as envie de te pendre. Et quand ça rigole, franchement, t'as la larme à l'œil. Ouais. Non, c'est basique, hein, mais c'est que pour ça.
Il vaut mieux que ça rigole, hein. 40 millions d'euros sur la piste du Marsupilami. Il va falloir rembourser maintenant, monsieur Alain Chabat. Voilà, donc c'était, en ce qui me concerne, très drôle. Et même les séances ouvertes aux journalistes, qui ne sont pas les plus drôles. Hein, il y a vraiment une ambiance formidable. Ça riait quand même.
Donc, ils sont déjà contents, ils sont déjà payés, puisque c'est leur salaire de nous entendre rire. C'est parfait.
Cinérama sur Divergence FM.
Plutôt que de faire mourir l'humanité par dégénérescence purulente ou manifestation de bronchite virale, l'épidémie de Perfect Sense va décimer la Terre en privant peu à peu les hommes de leur sens. Alors que les premiers cas de perte d'odorat apparaissent, une épidémiologiste jouée par Eva Green rencontre un cuisinier, Ewan McGregor, et l'amour naissant ne tardera pas à remplacer les sensations qu'ils perdent les unes après les autres.
Smell. All gone. That's the disease. And then the loss of another sense.
You're just like all the others. I think it's okay to panic now.
Romantique et anxiogène, le film mixe la peur de l'apocalypse avec les codes des films de contaminés pour amener une histoire d'amour qui sera finalement le centre du propos. Si ce mélange a été considéré comme indigeste par de nombreux critiques, on ne s'étonnera pas en revanche que Lars von Trier soit à la production, sans doute séduit par cette vision très intimiste de la fin du monde éprouvée à travers deux personnages seulement, comme il l'avait lui-même mis en scène dans Mélancolia. Sans pitié quant à la condition humaine au premier abord, le film se révèle finalement très humaniste, puisque la mystérieuse maladie permettra aux humains d'aller chercher dans leurs ressources comment continuer à vivre sans leur sens. Contrairement à Contagion de Soderbergh, la propagation du virus n'est pas décrite par des mouvements de panique ou des scènes spectaculaires, mais par une simple voix off sur fond d'images d'archives pour donner un point de vue global de la situation. Petite astuce de mise en scène, un peu tirée par les cheveux, mais qui a le mérite de faire économiser quelques millions de dollars. Il y a dans Perfect Sense beaucoup de similitudes aussi avec Blindness de Fernando Méreyès pour sa manière gracieuse et poétique de décrire les répercussions d'une épidémie ainsi que dans la minutie du scénario à rechercher la véracité psychologique. Très inspiré par la sinistrose actuelle, le film est une allégorie très voire trop ambitieuse des crises écologiques et économiques qui font perdre aux humains tout repère. Perfect Sense réussit tout de même à échapper à la prétention de ses ambitions, notamment grâce à ces deux acteurs qui possèdent assez de sensibilité pour rendre vivante cette déchéance physique et faire passer la pilule d'une réalisation un peu chichiteuse. Le fait par ailleurs qu'ils deviennent sourds assez rapidement justifie la rareté des dialogues, ce qui réduit la relation amoureuse à son plus pur aspect charnel, justifiant donc ainsi le titre, puisque The Perfect Sense, le sens parfait, c'est bien évidemment l'amour. Voilà. Donc moi perso c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai trouvé ça vraiment concis, intense, très bien fait. Faut mieux pas y aller si on est d'humeur, hypochondriaque ou angoissée parce que d'accord. Vous allez vraiment passer un très sale moment. Ni dépressif non plus.
Faudra penser à un petit jingle coup de cœur de Marine.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et nous recevons maintenant par téléphone Souma, parce qu'on a ouvert Cinérama avec le festival de Bayargues qui se déroule donc du 6 au 15 avril. Et il y a un autre festival qui se déroule cette fois-ci à Montpellier, c'est Quilombo, c'est la 8e édition. Bonjour Souma.
Bonjour.
Alors tu viendras la semaine prochaine dans les locaux de Divergence, dans Cinérama, parce que tu as l'habitude de venir pour parler de ton festival. Mais là, on va faire un tout petit point sur ce qui va se passer là dans les prochains jours pour le festival Quilombo qui se déroule donc dans les maisons pour les médiathèques et puis salle Rabelais et à l'espace Martin Luther King. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là dans les trois jours qui arrivent?
Mais donc on commence vendredi à 19h à la médiathèque Shakespeare qui se trouve vers le petit bar avec la projection du film Bab Aziz de Nasser Kemir. C'est une soirée qui est mise en place en partenariat avec l'association Cham. C'est un très beau film qui parle de spiritualité, surtout du soufisme. Donc il y aura toute une discussion et un pot de l'amitié. Ensuite, le 7 avril, à partir de 14h jusqu'à 22h, à l'espace Martin Luther King, il y aura une série de films et surtout une rencontre à 20h autour du Rwanda et puis d'une réflexion autour du thème de l'intervention française en Afrique avec le cas spécifique du Rwanda. Le 7 avril sera la date de commémoration du génocide. Qui est en cours là-bas. Donc il y aura des diffusions d'extraits de films qui témoignent un peu de ce qui a pu se dérouler là-bas, notamment le film de Jean-Christophe Claus, Ligne de front, et le documentaire qu'il a fait, Rwanda, Kigali, image pour un massacre. Donc il y aura des extraits de films, des discussions un peu et des témoignages. Et puis bon, aussi un peu de recueillement. Et la soirée se terminera par un pot de l'amitié.
Donc ça, c'est ce samedi à l'espace Martin Luther King, hein, 20h, projection débat. Ensuite, ça reprend le mardi, me semble-t-il.
Oui, mardi 10. Donc, en fait, il y a tout un cycle qui est mis en place dans le cadre de Quilombo, donc autour d'une rétrospective du cinéma de Côte d'Ivoire et un grand angle sur la Guinée. Alors, dans le cadre de cette proposition, il y a des diffusions de films qui seront faites à la médiathèque Fellini, le 10, à partir de 16h, donc un court-métrage et un long-métrage d'un réalisateur guinéen qui s'appelle Cheikh Fantamadi Camara. Et le soir, il y aura des diffusions de films qui seront faits à la salle Rabelais, le centre Rabelais qui se trouve sur l'esplanade, à partir de 18h, avec à 20h un débat aussi qui répond au débat sur le Rwanda, intervention française en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire, avec des diffusions d'extraits de documentaires, des échanges aussi.
Voilà, donc je l'ai pas précisé, hein, mais Quilombo, effectivement, c'est un regard sur l'Afrique à travers le cinéma. Hein,
pour résumer.
Voilà, c'est ça, effectivement.
Alors, Souma, eh bien merci. Donc là, on a donné le programme des jours à venir, et puis tu reviens mercredi, on parlera eh bien des films qui resteront à être projetés avec des petits extraits. On en parlera un peu plus longuement la semaine prochaine.
D'accord, très bien. Bon week-end et puis venez voir des films.
Absolument, et on précise, hein, l'entrée est absolument gratuite.
Oui, entrée libre sur toutes les projections et toutes les propositions.
Et puis on peut aussi rappeler qu'il est assez rare de voir des films non seulement africains, mais aussi des films qui posent un regard sur l'Afrique.
Inédit et très intéressant et de très bonne qualité.
Merci Souma, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Voilà, donc Maïté, vous êtes restée pendant toute l'émission, absolument silencieuse. C'est peut-être le moment de parler puisqu'il nous reste quelques minutes. Parmi les films dont on a parlé, par exemple, lequel vous attire le plus ?
Pas énormément. Là. Ah, désolée, si ce n'est peut-être.
Le film, d'Anthony Mann.
Oui.
Ah bah oui, mais il faut, voilà. Y a pas de souci, hein. C'était une question vraiment très très ouverte.
Je me sens pas aimée d'un coup.
Non,
ton coup de cœur, hein, c'était pas ça. Hein.
Voilà, le Marsupilami, oui, très certainement.
Vous êtes très bon
moment, mais.
Vous êtes un peu allergique aux grosses productions, c'est ça, hein. Vous faites pas confiance à Chabat.
Non, pas spécialement, mais voilà.
Ça vous attire pas.
Non.
Non, puis il faudrait pas que ça empêche les gens d'aller voir.
Ça n'a rien à voir. Il y a du très très bon cinéma, mais c'est peut-être pas non plus ma tasse de thé, Marsupilami. Voilà.
Donc on le rappelle, vous êtes la directrice donc du festival de Bayac, 6 au 15 avril. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux ajouter que demain au Ciné-Club Jean Vigo, il y aura la projection débat autour du film Jour de fête de Jacques Tati. Donc c'est au Centre Rabelais, c'est à 20h. Et c'est à peu près tout ce que j'ai dans l'agenda. On est en avance, c'est ça, hein, qui se passe. Ben voilà. Maïté, si vous avez quelque chose à ajouter. La dernière fois, on vous avait fait jouer un blind test, mais là, c'est vrai qu'on n'a rien prévu, ça c'est dommage. Non, je ne sais pas, un petit coup de cœur sur votre festival.
Oui, non, mais les petits coups de cœur sur notre festival, c'est simplement qu'il y a des films qui sont peut-être aussi un petit peu moins grand public et qu'il faudrait appuyer. Enfin, la thématique de la famille, c'est très diverse. Il y a à la fois des très bons moments, à la fois de la famille recomposée, à la fois des choses un petit peu plus dramatiques. Et il y a une jeune Norvégienne, c'est pas Anita Kili, qui a pondu un film d'animation qui s'appelle The Chinaman, l'homme en colère, qui parle en fait de la thématique des hommes agressifs et des femmes battues, des enfants battus aussi. Et c'est très très bien de voir ça aussi dans l'animation. Voilà.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
On remercie Maïté, d'Olivier, on remercie Souma, qu'on retrouve la semaine prochaine.
On remercie aussi Bruno à la technique et n'oubliez pas, juste après, 24 notes secondes qui sera aujourd'hui consacrée à Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Il va y avoir du Céline Dion à fond, ça va être génial. À la semaine prochaine.
Au revoir, à la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.